Salut, Apple Friday. Cette semaine, OpenAI et Microsoft se séparent. Apple a organisé un événement de lancement vraiment sympa, et les poignées de porte des voitures pourraient bien ne plus jamais être les mêmes. Bienvenue à la caisse du vendredi. Cette vidéo a été sponsorisée par Brilliant. Bon, pour ma première histoire de la semaine, Microsoft et OpenAI se séparent de manière assez spectaculaire. Pour commencer, le Wall Street Journal a rapporté qu'Oracle et OpenAI allaient signer un accord de cloud computing insensé de 300 milliards de dollars. Cet accord est censé concerner le projet mythique Stargate, ce qui implique la construction massive de centres d'IA pour OpenAI, et cet argent ne devrait apparemment pas être destiné au service Microsoft Azure. Aucune des deux entreprises n'a encore explicitement confirmé l'accord, mais Oracle a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats qu'elle avait désormais cité 455 milliards de dollars de revenus contractuels en cours, ce qui correspond à peu près à ce qu'affirme le Wall Street Journal. Et comme ces chiffres sont impossibles à comprendre, juste à titre de comparaison, l'intégralité de Twitter a été achetée pour 44 milliards de dollars. L'intégralité de LinkedIn a été achetée pour 26 milliards de dollars. Et toute la division des téléphones Nokia a été rachetée par Microsoft pour 5,6 milliards de dollars. Ainsi, rien qu'en ouvrant AI, on dépensera des dizaines, voire des centaines de fois plus pour les centres de données Oracle au cours des 5 prochaines années que pour des entreprises gigantesques qui ont été rachetées au total. Le Wall Street Journal souligne également que les centres de données consommeront plus d'électricité que deux barrages Hoover ou la quantité consommée par environ 4 millions de foyers. Cool, autre fait extrême, Oracle, selon le Wall Street Journal, a un ratio d'endettement de 427%, ce qui signifie que la majeure partie de son développement a été financée jusqu'à présent par des prêts. Ces chiffres sont si énormes que si un secteur de l'IA s'avère être une bulle et qu'elle éclate, elle emportera d'énormes pans de l'économie avec elle. Mais bon, jusqu'à présent, les actions d'Oracle ont explosé et le copropriétaire et méchant des obligations avant la mort, Larry Ellison, est devenu l'homme le plus riche du monde. Quelqu'un doit donc faire la fête. Pendant ce temps, Microsoft ne reste pas les bras croisés non plus, car nous avons appris cette semaine que Microsoft a mis fin à son exclusivité OpenAI dans Office en ajoutant également des modèles de son concurrent Anthropic. Et bien sûr, il y a deux semaines à peine, vous vous souvenez peut-être que Microsoft a lancé ses deux propres modèles d'IA internes, qu'ils ont spécialement conçus au cas où ils voudraient remplacer ceux d'OpenAI. En d'autres termes, les deux parties semblent se découpler l'une de l'autre, ce qui pourrait avoir des conséquences énormes, en particulier à cette échelle démente. D'accord, et pour ma deuxième histoire de la semaine, Apple a organisé son grand événement de lancement. Et je parie que vous savez déjà qu'ils ont lancé un tas de nouveaux appareils, dont de nouveaux iPhones, des montres Apple et des AirPods. Mais je voulais souligner une tendance que je n'ai encore vu personne d'autre mentionner, à savoir à quel point cet événement était old school. Plus précisément, j'ai été vraiment surpris qu'il n'y ait pratiquement aucune mention de l'IA. Apple vient de lancer une tonne de nouveaux appareils et a passé tout son temps à mettre en avant tous les changements matériels qu'ils ont apportés. Ils ont de tout nouveaux designs, dont un téléphone plus fin, l'Air. Ils ont un autre téléphone doté de meilleurs appareils photo grâce à des capteurs beaucoup plus grands, l'Ultra. Ils ont désormais des appareils photo selfie avec des capteurs de forme carrée pour pouvoir prendre des photos en mode portrait ou paysage, quelle que soit la façon dont vous tenez votre téléphone. Leurs écouteurs sont équipés de capteurs de fréquence cardiaque, ce qui vous permet de suivre vos entraînements sans montre. Ils ont également des embouts en mousse, la mousse étant elle-même intégrée sous le silicone pour une meilleure étanchéité. Apple a lancé sa toute première puce Bluetooth et Wi-Fi interne dans les iPhones, appelée N1, ainsi qu'un nouveau modem sans fil appelé C1X, seulement 6 mois après la sortie du dernier modem de la société. Plus importante encore, nous avons enfin eu un écran 120 Hz sur l'iPhone 17 de base, etc. En gros, tout l'événement et toutes les fonctionnalités phares n'étaient que des mises à jour matérielles et logiciels classiques plutôt que des teasers pour d'autres résumés de texte ou créateurs d'émojis ou autres. Bien sûr, Apple a parlé de l'IA plutôt à la WWDC, et ils ont probablement évité de le faire ici parce qu'ils ont fait une blague à Apple, car l'intelligence artificielle était assez peu impressionnante. Mais j'ai vraiment apprécié le fait qu'Apple, pour une fois, ait essayé de convaincre les gens qu'ils avaient des trucs cool à l'ancienne. Vraiment, la seule chose que je n'ai pas aimée, c'est la façon trompeuse dont ils continuent de dire que leurs appareils photo ont un zoom de qualité optique. Un
zoom de qualité optique pour se rapprocher encore plus de l'action.
Alors qu'ils parlent simplement d'un recadrage numérique qui n'est pas si horrible. Comme sur les modèles Pro par exemple, ils ont un objectif zoom 4x et aussi un capteur assez grand qu'ils recadrent ensuite et appellent zoom de qualité optique 8x. C'est tellement trompeur. J'avais un ami qui a regardé l'événement et qui en est ressorti avec la conclusion principale que waouh, ce nouveau téléphone a un zoom optique 8x parce que bien sûr qu'ils l'ont fait parce qu'Apple leur a dit qu'il avait un zoom de qualité optique 8x. Comment une personne normale est-elle censée faire la différence? Comment est-ce même légal? Bon, passons à notre troisième histoire de la semaine. Apparemment, il faut qu'on parle des poignées de porte des voitures. Plus précisément, une source chinoise appelée Minjing Pro affirme que le gouvernement chinois envisage d'interdire les types de poignées de porte qui se rétractent dans la carrosserie et qui nécessitent généralement de l'électricité pour s'ouvrir. Cet article est paru la même semaine qu'un grand article de Bloomberg sur la façon dont les poignées de porte afflorantes de Tesla, en particulier sur les anciens modèles, se sont avérées dangereuses car elles pouvaient perdre de la puissance en cas d'accident et finir par piéger les gens à l'intérieur de leur voiture dans des situations dangereuses. Mais le phénomène n'est pas propre au Tesla, car News China, par exemple, cite des exemples de poignées de portes gelées, ainsi que des courts-circuits électriques dus à des inondations et d'autres incidents survenus dans différentes marques. Et ils disent aussi cette citation. Les crash tests ont révélé que les véhicules équipés de poignées de portes électroniques n'obtenaient qu'un taux de réussite de 67% en cas de collision latérale, ce qui contraste fortement avec le taux de réussite de 98% des poignées mécaniques. Ouf, Tesla a commencé à ajouter des loquets mécaniques pour ouvrir les portes des modèles plus récents en cas de panne de courant. Mais bonne chance pour en trouver après un accident de voiture et que votre voiture est endommagée ou en feu. Et les différentes sources que j'ai trouvées ont affirmé que les avantages aérodynamiques des poignées de portes affleurantes sont en fait assez minimes. Les appels à leur interdiction semblent donc assez séduisants. Ensuite, un grand salon de la caméra a eu lieu cette semaine. Donc tout notre écran de lancement est rempli de toutes nouvelles caméras. À commencer par le tout premier appareil qui porte à la fois la marque Nikon et la marque Red. Nikon, bien sûr, a acheté Red plus tôt, et leur premier appareil comarqué est un modèle étonnamment abordable d'environ 2 200 $ appelé DCR qui combine des fonctionnalités de cinéma haut de gamme comme le code RAW-RED et l'enregistrement audio 32 bits, ainsi qu'un système de vidéosurveillance. Un écran géant de 4 pouces avec des fonctionnalités comme le très bon système de monture d'objectifs de Nikon. Il y a certainement des choix étranges comme un port micro HDMI, mais le prix reste très agressif. Et toujours avec Red, nous avons également eu un V-Raptor XE, qui est un appareil photo grand format à petit budget qui propose certaines des fonctionnalités haut de gamme de Red pour un prix d'environ 15 000 $ seulement. Pas mal, je suppose. Dans le même ordre d'idées, Fujifilm vient de dévoiler sa toute première caméra de cinéma, la GFX Eterna 55. Et en plus des fonctionnalités habituelles des caméras de cinéma, l'une des plus remarquables est qu'elle dispose également de simulations de films Fujifilm, ce qui est bien. Et enfin, sur notre liste de lancement, Canon a également annoncé l'EOS C50, qu'ils considèrent comme leur caméra de cinéma la plus compacte à ce jour. Elle coûte 3 900 $ et elle est dotée d'un tout nouveau capteur plein format capable d'enregistrer en 7K à 60 IPS, mais elle perd un tas de fonctionnalités haut de gamme comme un capteur stabilisé, un viseur électronique, etc. Oh, eh bien, très bien, et passons maintenant au briefing, que nous commençons par mon application de messagerie préférée, Signal. Signal a enfin introduit les sauvegardes sécurisées. Ils ont déclaré qu'il s'agissait de leur demande de fonctionnalité la plus courante et qu'elle serait déployée en version bêta pour Android, avant d'être disponible sur iOS et les ordinateurs de bureau plus tard. Tous vos SMS et les 45 derniers jours de contenu multimédia peuvent être sauvegardés gratuitement. Si vous souhaitez plus de 45 jours de contenu multimédia, il existe un forfait payant pour environ 2 $ par mois. Nous avions déjà une fonctionnalité de sauvegarde sur Android et nous pouvons la transférer manuellement sur un cloud nous-mêmes. Mais le fait que ce soit automatique est une bonne chose. Cela sera particulièrement utile pour les utilisateurs iOS. Sympa. Et en parlant de nouvelles fonctionnalités intéressantes, Spotify a enfin lancé la prise en charge du streaming musical sans perte après l'avoir annoncé pendant ce qui semble être une décennie. Plus précisément, le streaming de qualité FLAC 24 bits 44,1 kHz sera disponible pour les abonnés premium et certains marchés, et vous devrez l'activer dans l'application pour qu'il fonctionne. Hourra ! Et puis, autre bonne nouvelle, Microsoft a également rendu l'inscription des développeurs gratuite pour les développeurs individuels sur le Microsoft Store. Cela signifie qu'aucun frais ni aucune carte de crédit ne sont nécessaires pour publier une application, contrairement à Apple et Google. Sympa. Autre fonctionnalité, l'outil audio multilingue de YouTube est désormais largement déployé. Cela signifie qu'un créateur peut télécharger plusieurs pistes audio qui seront diffusées par différentes personnes dans le monde. Cela pourrait être très utile, même si j'espère vraiment que YouTube nous donnera des boutons pour activer et désactiver ces fonctionnalités, car je déteste quand ils traduisent automatiquement des choses dans des langues que je comprends et parle déjà, et YouTube devrait savoir que je les comprends. Quoi qu'il en soit, et rappelez-vous qu'il y a tout juste 2 semaines, nous avons annoncé qu'un fabricant chinois d'aspirateurs robots avait annoncé qu'il fabriquait un concurrent de Bugatti. Eh bien, ils ont publié des images teaser et elles ressemblent vraiment à des imitations de Bugatti générées par l'IA. Je pense que l'IA a même placé un moteur à combustion interne derrière la lunette arrière, bien qu'il s'agisse soi-disant d'un véhicule électrique, bien sûr. De plus, certains rayons ne semblent pas toucher le centre de la roue. Vous pouvez voir la calandre qui a l'air complètement en désordre, en particulier là où se trouverait le logo Bugatti, etc. Donc, je pense que ce n'est peut-être qu'un hamburger de rien du tout. Mais ensuite, vraiment réel, il y a Tiny Vinyl, qui a été lancé comme un nouveau format pour les vinyles contenant une chanson par face. Ça a l'air extrêmement mignon, même si je n'ai aucun intérêt pour les vinyles. Et apparemment, c'est conçu pour l'ère du streaming, où les artistes sortent bien plus souvent des singles que des albums entiers maintenant, mais où les fans pourraient toujours vouloir les posséder sur des supports physiques. Cool. Et puis, ce qui est moins encourageant, c'est que Nova Launcher, l'un des outils les plus appréciés sur Android, ferme officiellement ses portes. Le développeur principal, Kevin Barry, a posté qu'il avait été le seul à travailler sur Nova au cours de l'année écoulée et que The Branch, la société qui lui avait précédemment racheté Nova Launcher, lui avait demandé d'arrêter de travailler sur Nova Launcher et sur l'effort d'open source, ce que beaucoup espéraient être son destin ultime. J'ai installé Nova Launcher sur une douzaine d'appareils différents au fil des ans, y compris ceux de mes amis et de ma famille. Je serais donc triste de le voir disparaître, mais si vous cherchez une recommandation pour une alternative, alors je dirais d'essayer Negara. C'est probablement la coutume. Lanceur qui m'enthousiasme le plus ces derniers temps. Et puis, en matière de financement, le champion français de l'IA Mistro a levé 1,7 milliard d'euros, soit environ 2 milliards d'euros, ce qui représente un énorme coup de pouce pour ce qui est la société dite à la plus valorisée d'Europe. Et le plus intéressant, c'est que son principal investisseur est en fait la société néerlandaise ASML, qui fabrique les machines EUV préférées de tous pour la fabrication de puces, et qui affirme également vouloir adopter pleinement les modèles de Mistral pour ses propres opérations. Or, au cœur de l'intelligence artificielle et de la fabrication de puces se trouve une ingénierie vraiment fascinante. Et si vous trouvez cela également intéressant, alors pourquoi ne pas apprendre comment cela fonctionne réellement? Avec Brilliant, c'est exactement ce que vous pouvez faire. Il propose des cours interactifs fantastiques qui couvrent une multitude de sujets autour de l'ingénierie, des sciences, de l'informatique, des mathématiques et bien plus encore, qui sont tous conçus pour vous aider à penser comme un ingénieur ou un scientifique. Des sujets tels que le fonctionnement de l'IA, qui décompose toute cette nouvelle vague de grands modèles linguistiques en ses composants de base, puis vous propose un exercice vraiment amusant et inédit pour mettre en pratique vos leçons chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau. Ou si vous êtes plutôt dans les puces, je pense que vous pourriez vraiment aimer en apprendre davantage sur les circuits, qui sont au cœur de tous ces cours. La particularité de Brilliant est de diviser ces sujets très vastes et complexes en de nombreux petits morceaux, puis de concevoir des exercices interactifs vraiment intelligents qui se sont avérés non seulement plus efficaces que la simple assimilation passive des connaissances, mais aussi beaucoup plus amusants. C'est génial si vous souhaitez explorer une nouvelle carrière ou si vous voulez simplement apprendre quelque chose pour le plaisir. Pour essayer Brilliant gratuitement, rendez-vous sur brilliant.org/tfc/tfc ou scannez le code QR à l'écran maintenant ou vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description. Et si vous le faites, vous bénéficierez de 20% de réduction sur un abonnement annuel premium. Alors, n'hésitez pas à les consulter. Bon apprentissage et à vendredi prochain.